Vous écoutez, on lit pour vous.
L'urgence climatique et les droits des personnes handicapées. État des lieux et perspectives. Un texte de Sébastien Jaudoin, Rose Paquet et Catherine Lofts, paru le 8 juillet 2024 dans la revue Equitas. Résumé. Cet article interroge le rôle que peut jouer le droit du handicap dans la lutte au changement climatique. En nous appuyant sur la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, nous précisons les obligations des États envers les personnes handicapées dans le domaine des changements climatiques. Nous expliquons également que la vulnérabilité accrue des personnes handicapées dans la crise climatique résulte de l'interaction entre les incapacités des individus et les barrières institutionnelles, économiques, comportementales et environnementales auxquelles ils sont confrontés dans la société. Nous présentons ensuite les résultats d'une analyse systématique de la protection des droits des personnes handicapées dans le contexte des politiques climatiques adoptées autour du monde. Enfin, nous terminons par une présentation des contentieux climatiques liés aux droits des personnes handicapées. Nous suggérons que des solutions climatiques inclusives du handicap sont non seulement essentielles pour protéger les droits et la dignité des personnes handicapées, mais qu'elles pourraient permettre à une plus grande partie de la population de contribuer à l'émergence de sociétés sobres en carbone et d'améliorer leur résilience climatique. Introduction. Au cours de la dernière décennie, les États ont adopté plusieurs décisions au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, CDHNU, et de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, CCNUCC, qui reconnaissent que les personnes handicapées sont davantage à risque de subir les effets négatifs des changements climatiques et que leurs droits humains devraient être respectés dans le cadre de l'action climatique. Cependant, le rôle que peuvent jouer les droits des personnes handicapées dans la lutte contre les changements climatiques est encore peu connu ou apprécié des décideurs, spécialistes et activistes œuvrant dans ce domaine. En nous appuyant sur la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, nous expliquons comment la vulnérabilité accrue des personnes handicapées dans ce contexte résulte de l'interaction entre les incapacités des individus et les barrières institutionnelles, économiques, comportementales et environnementales auxquelles ils sont confrontés dans la société, notamment dans la lutte contre les changements climatiques. De plus, parce qu'elles sont souvent conçues sans tenir compte des droits des personnes handicapées, les politiques de réduction des gaz à effet de serre, GES, peuvent créer des obstacles supplémentaires pour les personnes handicapées et renforcer les inégalités sociales. Or, en vertu de cette convention, les États sont dans l'obligation de consulter les personnes handicapées et de protéger leurs droits lorsqu'ils développent et mettent en œuvre des politiques climatiques. Nous suggérons enfin que des solutions climatiques inclusives du handicap sont non seulement essentielles pour protéger les droits et la dignité des personnes handicapées, mais qu'elles pourraient également permettre à une plus grande partie de la population de contribuer à l'émergence de sociétés sans carbone avec une meilleure résilience climatique. Pour commencer, nous présenterons les fondements des droits des personnes handicapées en droit international et préciserons les obligations des États dans le contexte de l'urgence climatique. Ensuite, nous présenterons les résultats d'une analyse systématique de la protection des droits des personnes handicapées dans le contexte des politiques climatiques adoptées dans le monde. Enfin, nous terminerons par une présentation des contentieux climatiques liés aux droits des personnes handicapées. 1. Les droits des personnes handicapées et l'urgence climatique en droit international. Reflétant le modèle du handicap axé sur les droits humains, la CNUDPH clarifie et crée des droits humains s'appliquant au contexte spécifique du handicap. Elle conçoit les personnes handicapées comme étant détentrices de droits, les protégeant contre la discrimination et leur permettant de réclamer des mesures pour atteindre une égalité réelle avec les personnes non handicapées. Une approche du handicap qui est axée sur les droits humains comprend des conceptions substantives et transformatrices de l'égalité qui requièrent non seulement une élimination de la discrimination, mais aussi l'adoption de mesures qui reconnaissent les barrières physiques, économiques, institutionnelles et sociales qui entravent la pleine jouissance de droits pour les personnes handicapées. Ces obligations englobent un vaste éventail de droits protégés par la Convention, incluant les droits civils et politiques, tels que le droit à la vie, l'accès à la justice, la liberté et la sécurité personnelle, et la liberté d'expression et d'opinion, les droits économiques, sociaux et culturels, tels que les droits à l'eau, à l'alimentation, au logement, à la santé et à la culture, et les droits qui répondent aux défis particuliers auxquels sont confrontées les personnes handicapées, tels que l'accessibilité, la vie autonome et l'inclusion dans la communauté, la mobilité personnelle, l'adaptation et la réadaptation. Enfin, le modèle du handicap centré autour des droits humains prend en compte le rôle que les autres formes de marginalisation et de discrimination peuvent jouer, venant discriminer davantage les femmes, les enfants et les minorités ethniques vivant avec un handicap. Une gouvernance climatique axée sur les droits humains des personnes handicapées comporte donc trois obligations principales. Premièrement, cette approche met l'accent sur le fait que les gouvernements sont tenus de respecter, protéger et réaliser les droits humains des personnes handicapées dans l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques climatiques. Cette obligation s'applique tant au domaine de l'adaptation climatique qu'à celui de l'atténuation, c'est-à-dire aux efforts pour réduire les émissions de carbone. D'ailleurs, un nombre croissant de tribunaux nationaux et internationaux ont reconnu que les États ont l'obligation positive d'agir contre la crise climatique afin de respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit international ou constitutionnel. Comme l'a expliqué à la Cour européenne des droits de l'homme dans une décision récente, les conventions internationales relatives aux droits de l'homme, telles que la Convention européenne des droits de l'homme, obligent les États à prendre les mesures nécessaires pour empêcher une augmentation des concentrations de GES dans l'atmosphère terrestre et une augmentation de la température moyenne mondiale au-delà des niveaux susceptibles de produire des effets négatifs graves et irréversibles sur les droits humains. Ce raisonnement s'applique avec la même force à la CNUDPH, puisqu'elle engage spécifiquement les États parties à tenir compte de la protection et de la promotion des droits humains des personnes handicapées dans toutes leurs politiques et programmes, à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le droit à la vie des personnes handicapées et à assurer leur protection et leur sécurité dans les situations de risque. Deuxièmement, une gouvernance climatique inclusive du handicap implique que les gouvernements doivent évaluer et traiter les effets différentiels des impacts et solutions climatiques sur les droits humains des personnes handicapées. Ceux-ci doivent notamment tenir compte du fait que le handicap résulte, comme le précise la Convention elle-même, de l'interaction entre les déficiences physiques, sensorielles et mentales des individus et la manière dont les sociétés sont organisées, notamment la stigmatisation et la discrimination systémique, l'inaccessibilité des structures physiques, des lieux de travail et des institutions, ainsi que le manque de lois, de ressources et de services de soutien. Cet exercice doit également être mené dans le cadre d'une approche intersectionnelle qui reconnaît les effets uniques et cumulés des formes multiples de discrimination fondées sur le handicap, le sexe, l'appartenance ethnique, l'âge et la pauvreté. Troisièmement, une gouvernance climatique axée sur les droits des personnes handicapées exige leur participation pleine et effective à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques climatiques. Les gouvernements doivent notamment communiquer l'information en matière d'environnement dans des formats accessibles, offrir des programmes de financement et de renforcement des capacités afin de renforcer le rôle que peuvent jouer les personnes en situation d'handicap en tant qu'agents de la gouvernance climatique. Les impliquer de manière significative avec leurs connaissances dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques et programmes climatiques. Et veiller à ce qu'ils aient accès à des recours judiciaires et administratifs lorsqu'ils subissent des préjudices découlant de problèmes ou solutions climatiques. Ce faisant, cette approche met l'accent sur les contributions que le leadership, la créativité et les connaissances des personnes handicapées peuvent apporter à la transition écologique en améliorant son accessibilité pour une plus grande partie de la population. Vous écoutez « L'urgence climatique et les droits des personnes handicapées, état des lieux et perspectives ». Un texte de Sébastien Jaudoin, Rose Paquet et Catherine Lofts, paru le 8 juillet 2024 dans la revue Equitas. 2. La vulnérabilité climatique des personnes handicapées et la violation de leurs droits humains. Une approche centrée sur le droit du handicap en lien avec l'adaptation climatique est essentielle pour prévenir, minimiser et combattre les impacts négatifs des changements climatiques pour les personnes vivant avec un handicap. Il est possible d'expliquer la majorité de la vulnérabilité des personnes handicapées face aux changements climatiques par un environnement, des politiques et une culture handicapante. Le handicap est généralement présent au sein des populations les plus défavorisées de la société et les personnes handicapées sont les plus marginalisées d'une communauté en raison de leur accès limité à l'éducation, à un revenu, aux plateformes sociales et aux autorités décisionnelles. Par conséquent, les personnes handicapées sont négligées lors du développement des politiques et des programmes d'adaptation climatique. Elles font tout autant face à des barrières lorsque vient le temps de recevoir de l'information et des services dans un format efficace et accessible. Dans le contexte de la vulnérabilité climatique, ces barrières construites socialement sont particulièrement frappantes lorsqu'on considère l'invisibilité des personnes handicapées dans les efforts de préparation aux catastrophes de plusieurs pays. Les personnes vivant avec un handicap sont parmi les plus vulnérables en cas d'urgence, impliquant des périls environnementaux avec un taux de mortalité disproportionnellement élevé, tout en étant également celles pour qui l'aide d'urgence est la moins accessible. Tel qu'expliqué par Abbott et Porter, ces dangers additionnels pour les personnes vivant avec un handicap sont liés à la vulnérabilité supplémentaire accompagnant la pauvreté, l'accessibilité à l'information liée aux risques et périls, à la conception et la construction de l'environnement et aux attitudes discriminatoires au sein de la société. De plus, les difficultés vécues par les personnes handicapées sont exacerbées lorsqu'elles appartiennent à un autre groupe vulnérable. Les personnes vivant avec un handicap ne sont pas un groupe homogène. Elles font face à des situations d'oppression complexes qui sont déterminées par une convergence de différences sociales et de pouvoir. Le HCDH reconnaît spécifiquement que l'intersection entre l'âge, le genre et le handicap peut exacerber les impacts négatifs des changements climatiques pour les femmes et les enfants. Ainsi, il est impératif qu'une approche axée sur le droit du handicap considère les multiples formes d'oppression vécues par les personnes handicapées. 3. La protection des droits des personnes handicapées dans le contexte des politiques climatiques. Dans le cadre de l'accord de Paris de 2015, les pays sont appelés à communiquer leurs contributions déterminées au niveau national, CDN, les efforts que chaque pays déploiera pour réduire ses émissions et s'adapter aux impacts du changement climatique. Les CDN doivent être soumises par les États parties tous les 5 ans, chaque CDN successive représentant une progression de l'ambition par rapport à la CDN précédente. Plus récemment, à la COP26, les États parties à l'accord de Paris ont adopté une décision qui encourage les États à soumettre des CDN plus ambitieuses d'ici la fin de l'année 2022. En 2022 et 2023, nous avons systématiquement recueilli et analysé la plus récente version du CDN communiquée au secrétariat de la CCNUCC. Notre analyse la plus récente révèle que seuls 39 des 195 parties à l'accord de Paris font actuellement référence aux personnes handicapées ou au handicap dans leur CDN. Nous notons également que la plupart des références au handicap dans les CDN sont de nature relativement générale. Un certain nombre de pays notent simplement la vulnérabilité accrue des personnes handicapées aux impacts du changement climatique ou identifient les personnes handicapées comme un segment de la population nécessitant des mesures d'adaptation spécifiques. D'autres références au handicap incluent des mesures plus concrètes et spécifiques à prendre par les États parties. Par exemple, plusieurs pays notent la nécessité de collecter des données désagrégées concernant les impacts du changement climatique et des catastrophes sur les groupes marginalisés, y compris les personnes handicapées. D'autres pays proposent l'inclusion des personnes handicapées dans la transition vers une économie verte, par exemple le Canada et la Jordanie. Nous avons également recueilli et analysé toutes les politiques d'adaptation climatique adoptées par les États au niveau national en 2022 et 2023. Notre analyse la plus récente des politiques d'adaptation climatique révèle seuls 65 des 195 parties à l'accord de Paris mentionnent les personnes handicapées ou le handicap d'une manière ou d'une autre dans leur politique d'adaptation au climat. Bien qu'il s'agisse d'une augmentation de 40 % depuis notre premier rapport en 2022, cela signifie toujours que 67 % des parties ne font actuellement pas référence aux personnes handicapées d'une manière ou d'une autre dans leur politique d'adaptation au climat. Pour les personnes handicapées, leur exclusion de la planification de l'adaptation au climat peut être pourtant une question de vie ou de mort. Les effets du changement climatique ont un impact disproportionné sur les personnes handicapées et portent atteinte à leurs droits, notamment le droit à l'alimentation et à la nutrition, à l'eau potable et à l'assainissement, aux services de santé et aux médicaments, à l'éducation et à la formation, à un logement adéquat et à l'accès à un travail décent. Par exemple, dans les situations d'urgence impliquant des risques environnementaux, les personnes handicapées font souvent partie des personnes les plus touchées, avec des taux de morbidité et de mortalité disproportionnés, et sont parmi celles qui ont le moins accès à l'aide d'urgence. Nous relevons également que la majorité des références au handicap et aux personnes souffrant de problèmes de santé ou de maladies chroniques dans les politiques d'adaptation au changement climatique des États sont peu étoffées. Dans de nombreuses politiques, les personnes handicapées sont citées parmi d'autres groupes particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique, mais sans autre précision quant aux mesures à prendre pour garantir l'inclusivité des mesures d'adaptation. Il existe certaines exceptions. Par exemple, la politique nationale du Zimbabwe en matière de climat identifie les moyens spécifiques par lesquels les personnes handicapées et les personnes atteintes de maladies chroniques ont été exclues des initiatives de développement et de la prise de décision. Elle identifie également la nécessité de renforcer la capacité d'adaptation des groupes vulnérables, d'intégrer ces groupes dans toutes les réponses au changement climatique et de garantir un accès équitable et la propriété des ressources pour l'adaptation au changement climatique par les groupes vulnérables. Le plan national d'adaptation du Zimbabwe comprend également des obligations spécifiques concernant les personnes handicapées et d'autres groupes vulnérables, tels que la promotion de technologies conviviales et intelligentes sur le plan climatique, et le soutien au développement et à la diffusion d'informations météorologiques et agrométéorologiques simplifiées. Vous écoutez l'urgence climatique et les droits des personnes handicapées, état des lieux et perspectives. Un texte de Sébastien Jaudoin, Rose Paquet et Catherine Loftz, paru le 8 juillet 2024 dans la revue Equitas. 4. Les contentieux climatiques portant sur le handicap en lien avec l'urgence climatique. Puisque les possibilités de tenir les États responsables des violations des droits humains en lien avec le changement climatique sont limitées, en vertu de la CNUDPH elle-même, les personnes handicapées ont lancé des poursuites climatiques au niveau national et régional. Ce faisant, elles ont reproduit la stratégie et les arguments adoptés dans le nombre croissant de contentieux visant à établir la responsabilité juridique des gouvernements pour le manquement à engager des mesures suffisantes pour réduire les GES ou pour assurer la résilience climatique. À l'heure actuelle, la jurisprudence couvrant des cas liant spécifiquement les droits des personnes handicapées et l'urgence climatique est rare, quoique de plus en plus présente. Deux types de recours risquent d'abonder le paysage juridique. Les préjudices dus aux conséquences directes des changements climatiques sur les droits des personnes vivant avec un handicap et les préjudices dus à un manque d'accès aux ressources d'adaptation climatique. L'affaire MEX-M contre Autriche concerne un Autrichien atteint de la sclérose en plaques, SEP, et pour qui la chaleur provoque des symptômes neurologiques incapacitants, comme c'est le cas pour la majorité des personnes avec la SEP. Ce dernier a déposé une plainte contre le gouvernement autrichien, alléguant que les politiques climatiques autrichiennes sont insuffisantes pour respecter les objectifs de l'accord de Paris et qu'elles ont contribué à une détérioration de son état de santé. Il allègue que, par son inaction face à la crise climatique, le gouvernement autrichien a violé son droit constitutionnel à la vie familiale et privée en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, CEDH, et a autorisé des risques prévisibles pour son droit à la vie en vertu de l'article 2 de la CEDH. Cette affaire n'a pas encore été traitée par la Cour européenne des droits de l'homme. Une autre affaire récente consiste en une dénonciation informelle déposée par Environmental Justice Australia auprès du rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l'homme et l'environnement, du rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones et du rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées, concernant l'inaction du gouvernement australien en matière de changement climatique. La dénonciation concerne 5 jeunes Australiens âgés de 14 à 24 ans. S'appuyant sur la vulnérabilité climatique particulière des jeunes, des membres autochtones et des personnes handicapées, ils allèguent que le changement climatique exacerbe les inégalités existantes et porte directement atteinte à leur santé et à leurs droits culturels. Les plaignants demandent aux rapporteurs spéciaux de solliciter des explications à l'Australie sur la manière dont l'inaction climatique du pays est compatible avec ses obligations en vertu de l'accord de Paris, la Convention sur les droits de l'enfant et la CNUDPH? À ce jour, la réponse des rapporteurs spéciaux à cette initiative est encore attendue. Enfin, plusieurs affaires ont invoqué des arguments analogues à une réclamation fondée sur les droits des personnes handicapées, notamment Saki et les autres contre Argentine, Juliana et les autres contre États-Unis et La Rose et les autres contre Canada. Bien que ces actions en justice ne fassent pas spécifiquement référence aux droits des personnes handicapées, elles soutiennent que la vulnérabilité sous-jacente des plaignants aux impacts causés par le changement climatique a affecté leur santé, leur qualité de vie et leur bien-être, et que leurs gouvernements respectifs ont violé leurs obligations en matière de droits de l'homme en raison de leur inaction climatique. Dans les affaires Juliana et La Rose, plusieurs plaignants souffrent de maladies telles que l'asthme, la maladie de Lyme et le trouble anxieux général et affirment que leur état de santé a été affecté et va s'aggraver en raison des impacts du changement climatique. Parmi les cas qui allèguent des manquements en ce qui concerne les efforts d'adaptation, le cas Brooklyn Center for Independence of the Disabled, BCID, et collaborateur versus Mayor Bloomberg et collaborateur est particulièrement important à souligner. Datant de 2013, ce recours a été intenté par des personnes handicapées contre la ville de New York pour cause de discrimination dans ses plans d'urgence en réponse aux catastrophes climatiques. Aux suites de l'ouragan Irène, puis Sandy, dévastant tous les deux la ville de New York, il est devenu hautement apparent que les plans d'urgence de la Grosse Pomme ne tenaient pas compte des droits des personnes handicapées. Ce recours repose notamment sur l'American with Disabilities Act, ADA, qui prohibe une discrimination envers les personnes vivant avec un handicap, incluant dans le contexte des réponses aux désastres. La Cour du district sud de New York a donné gain de cause aux demandeurs, reconnaissant de grandes lacunes en ce qui a trait au respect des droits des personnes handicapées lors de l'élaboration du plan d'urgence de la ville, les laissant prises au dépourvu lors des ouragans. Dans son jugement, la Cour précise que les plans de la ville sont fautifs en ne protégeant pas les droits des personnes handicapées, notamment en ignorant les besoins spécifiques au handicap lors des plans d'évacuation en hauteur et dans l'accès à des moyens de transport adaptés. En approuvant des plans de refuge non accessibles aux personnes handicapées, en n'ayant aucun plan assurant que les personnes handicapées, n'étant pas assurées de pouvoir quitter leur bâtiment de façon autonome, puissent accéder aux services d'urgence fournis par la ville, et en enlevant une possibilité aux personnes handicapées de créer un plan d'urgence individuel solide dû à un programme d'éducation municipale non accessible. À la suite de ce jugement, un règlement a été conclu dans lequel la ville de New York a accepté de mettre en œuvre des améliorations globales de la planification des catastrophes, notamment les suivantes. L'embauche d'un coordinateur des handicaps et de l'accès et des besoins fonctionnels pour superviser les plans d'urgence de la ville et s'assurer qu'ils répondent aux besoins des personnes handicapées et qu'ils sont conformes aux lois de l'État et aux lois fédérales. La mise en place d'un groupe consultatif de la communauté des personnes handicapées afin que ces dernières puissent conseiller la ville sur ses plans d'urgence. L'élaboration des plans de transport accessibles en cas d'urgence. La création d'un groupe de travail sur l'évacuation des immeubles de grande hauteur, composé de représentants de la ville et d'organisations de personnes handicapées. La création d'une opération de prospection post-urgence qui sondera les personnes handicapées afin d'identifier et d'évaluer leurs besoins critiques. Et la création d'un minimum de 60 centres d'urgence accessibles. Ce règlement fournit une feuille de route utile pour la conception de politiques de préparation aux catastrophes, incluant le handicap dans d'autres contextes. Étant donné l'insuffisance des mesures d'adaptation adoptées par plusieurs gouvernements pour protéger la vie et la sécurité des personnes handicapées affectées par la crise climatique, il est probable que des recours similaires soient intentés dans d'autres juridictions. Vous écoutez l'urgence climatique et les droits des personnes handicapées, état des lieux et perspectives. Un texte de Sébastien Jaudoin, Rose Paquet et Catherine Lofts, paru le 8 juillet 2024 dans la revue Equitas. Conclusion. Au cours de la dernière décennie, la communauté internationale a de plus en plus reconnu les conséquences du changement climatique sur les droits humains, y compris pour les personnes handicapées. La reconnaissance internationale des droits de l'homme et des personnes handicapées constitue un point de départ important pour la conception et la mise en œuvre des actions climatiques. Comme nous l'avons expliqué tout au long de cet article, la vulnérabilité sociale des personnes handicapées les rend particulièrement sensibles aux impacts du changement climatique. Le modèle du handicap fondé sur les droits humains nous permet de reconnaître les préjudices uniques auxquels sont confrontées les personnes handicapées dans le contexte du changement climatique et des réponses qui y sont apportées. En outre, une approche de la gouvernance climatique fondée sur les droits des personnes handicapées met en évidence les principes, obligations et normes qui devraient guider les gouvernements dans la conception et l'adoption des politiques d'atténuation et d'adaptation. Cela exige, entre autres, que les États s'engagent activement auprès des personnes handicapées, adoptent des perspectives intersectionnelles qui tiennent compte du handicap et de ses interactions avec d'autres vulnérabilités, et reconnaissent et protègent les droits substantiels et procéduraux des personnes handicapées dans l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques et programmes climatiques. Il est essentiel que les efforts visant à décarboniser les économies et à renforcer la résilience climatique soient poursuivis de manière à favoriser la dignité et l'autonomie des personnes handicapées et à éliminer, plutôt que de renforcer, les obstacles à leur participation égale à la société. Inversement, un manquement au respect des droits des personnes handicapées dans le contexte de la gouvernance climatique pourrait ouvrir la porte à des recours de ces personnes en vertu du droit national et international. Malheureusement, les États sont loin de respecter leurs obligations à cet égard. Notre analyse systématique démontre qu'une minorité d'États partis à la CCNUCC inclut les personnes handicapées dans leur CDN ou CDPN et leur politique climatique nationale. Dans les cas où le handicap a été inclus, c'est en grande partie pour indiquer la vulnérabilité des personnes handicapées aux impacts du changement climatique ou pour signaler la nécessité de leur inclusion, sans fournir de mesures concrètes pour renforcer leur résilience et leur capacité d'adaptation. En outre, nous n'avons trouvé aucune politique d'atténuation du changement climatique d'un État parti faisant référence au handicap. À la lumière de ces résultats, il est clair que les États doivent faire davantage pour identifier les synergies entre les efforts de lutte contre le changement climatique et ceux visant à réaliser les droits des personnes handicapées. Outre le fait qu'elles respectent, protègent et réalisent les droits des personnes handicapées, les solutions climatiques intégrant le handicap ont également le potentiel de permettre à une plus grande partie de la population de contribuer aux efforts visant à décarboniser les sociétés et à favoriser leur résilience climatique. Jodoin et autres, 2020. Une approche de l'adaptation au changement climatique et de l'atténuation de ses effets, fondée sur les droits des personnes handicapées, est donc essentielle pour prévenir, réduire et corriger les effets néfastes du changement climatique sur les personnes handicapées et construire des sociétés plus inclusives. C'était l'urgence climatique et les droits des personnes handicapées, état des lieux et perspectives. Un texte de Sébastien Jodoin, Rose Paquet et Catherine Loft, paru le 8 juillet 2024 dans la revue Equitas.
Haïti genre. L'organisation World Vision souhaite l'éradication des actes de harcèlement sexuel en milieu scolaire. Un texte de la rédaction paru le 24 octobre 2024 dans Alter Press. L'organisation World Vision International préconise de l'engagement citoyen pour éradiquer les actes de harcèlement sexuel en milieu scolaire dans une note dont a pris connaissance l'agence en ligne Alter Press. De telles dispositions préventives permettraient de créer un environnement d'apprentissage sain et sécuritaire pour les élèves qui représentent l'avenir du pays, souligne-t-elle. Les pratiques d'attouchement, de paroles dirigées et sexualisées, et les abus comme les pratiques de sexe en échange de notes de passage, constituent un fléau qui asphyxie l'épanouissement et qui met en danger l'avenir des jeunes, en diminuant, entre autres, leur estime de soi, prévient l'organisation World Vision International. Elle critique l'inaction des responsables face à ces actes d'agression sexuelle dans l'environnement scolaire, tout en appelant les parents, les enseignantes et enseignants responsables et les élèves témoins ou informés de ces actes à briser le silence et à dénoncer les auteurs. L'organisation World Vision International exhorte les autorités gouvernementales à décréter la tolérance zéro contre le harcèlement sexuel à partir de cette nouvelle année scolaire, 2024-2025. Elle encourage également les médias à faire des émissions radio et télédiffusées sur la problématique, à faire des enquêtes et à écrire des articles en vue d'informer le grand public et les potentielles victimes sur les comportements à ne pas accepter et les recours en cas de harcèlement sexuel. Fondée en 1950, la World Vision International est une organisation chrétienne humanitaire de développement et de plaidoyer, dédiée au travail avec les enfants, les familles et les communautés vulnérables pour surmonter la pauvreté et l'injustice. C'était Haïti genre. L'organisation World Vision souhaite l'éradication des actes de harcèlement sexuel en milieu scolaire. Un texte de la rédaction paru le 24 octobre 2024 dans Alter Press.
Le PLQ s'efforce de considérer les intérêts de tous les Québécois, peu importe leur langue. Un texte d'André Pratt, paru le 19 novembre 2024 dans Le Devoir. Dans son éditorial du 14 novembre dernier, Marie Vastel déplore que les candidats à la direction du Parti libéral du Québec, PLQ, aient pris position en faveur de certains changements à la Charte de la langue française, plus précisément à certains articles introduits dans la Charte par la loi 96. Pour Mme Vastel, cela démontre que le PLQ se préoccupe davantage de la défense du traditionnel et bien plus fidèle électorat anglophone que des appuis des Québécois francophones. En tout respect pour Mme Vastel, je suis en désaccord avec cette interprétation de ce qui s'est passé du 8 au 10 novembre dernier au 35e congrès des membres du PLQ. Premièrement, la position du PLQ concernant certains aspects inacceptables de la loi 96 est connue depuis l'adoption de la loi, il y a 2 ans et demi. Pendant la campagne électorale de 2022, cette position a été clairement réitérée. Il s'agit non pas de se défaire de la loi 96, mais d'en retirer quelques articles, sur 200 articles, qui nous paraissent déraisonnables. Cette position reflète une valeur profonde des libéraux québécois. On peut promouvoir et protéger la langue française au Québec sans brimer les droits fondamentaux des Québécois. On ne parle pas uniquement ici des droits des Québécois d'expression anglaise, mais de ceux de tous les Québécois. Enseignez l'anglais à ceux qui veulent l'apprendre. L'éditorialiste souligne que, si nous formions le prochain gouvernement du Québec, nous retirerions le plafond arbitraire imposé aux admissions dans les collèges de langue anglaise. Cette mesure de la loi 96 ne nuit pas aux anglophones, mais bien aux jeunes francophones qui veulent profiter de leurs études collégiales pour apprendre l'anglais. On sait depuis des décennies, au Québec, que l'enseignement de l'anglais dans les écoles primaires et secondaires francophones ne suffit pas à l'apprentissage de cette langue pour ceux qui veulent le faire. Mme Vastel cite une des études publiées récemment par le commissaire à la langue française qui tend à montrer que les jeunes terminant leurs études postsecondaires en français ont 3 fois plus de chances d'utiliser essentiellement le français au travail que ceux qui sont diplômés des cégeps et des universités anglophones. Cette donnée n'a pourtant rien d'étonnant et ne signifie pas que ces francophones seront rapidement assimilés à la culture anglophone. Il n'est que normal que les cégepiens et les universitaires qui maîtrisent l'anglais soient plus nombreux à travailler en partie dans cette langue, probablement dans une des multinationales dont nous nous enorgueillissons, CGI, Couche-Tard, Bombardier, Atkins Realis, etc., ou de nos 16 000 PME qui exportent leurs produits partout dans le monde. Nous proposons aussi d'enlever de la loi 96 le recours massif et préventif à la disposition de dérogation des chartes canadiennes et québécoises des droits et libertés de la personne. Cette clause prive les Québécois, quelle que soit leur langue, de la capacité de défendre leurs droits fondamentaux devant les tribunaux. Son recours abusif est un affront à la Charte québécoise adoptée il y a bientôt 50 ans à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Nous, libéraux, croyons à la protection des droits fondamentaux et notre positionnement à cet égard n'a rien de nouveau ou d'étonnant. Les intérêts des Québécois, peu importe leur langue. Bien que les journalistes en aient très peu parlé, le Congrès a surtout donné lieu à l'adoption du projet de doter le Québec d'une constitution qui lui serait propre. Mme Vastel qualifie ce projet de « bouée de sauvetage nationaliste » qui ne fait pas l'unanimité. Il s'agit pourtant d'un projet fondamental qui a été adopté par une très forte majorité des 700 militants présents, y compris des membres de la communauté anglophone. Il est plus facile pour un parti politique de ne considérer que les votes des francophones et d'ignorer les Québécois d'expression anglaise et les membres des communautés culturelles. Le Parti libéral du Québec s'est toujours efforcé de considérer les intérêts de tous les Québécois, peu importe leur langue, leur origine ou leur religion. Cette approche amène son lot de défis, mais c'est la seule qui permette au Québec moderne de progresser dans le respect de tous, tout en assurant, bien sûr, la pérennité de la langue française comme langue majoritaire, officielle et commune. C'était « Le PLQ s'efforce de considérer les intérêts de tous les Québécois, peu importe leur langue ». Un texte d'André Pratt, paru le 19 novembre 2024 dans Le Devoir.
L'élection de Donald Trump et Haïti. L'analyse de Brian Concannon, juriste américain. Un texte de Charlien Janville, paru le 14 novembre 2024 dans Alter Presse. Si le retour du milliardaire américain Donald Trump à la Maison-Blanche suscite de nombreuses préoccupations, notamment au sein de la communauté haïtienne aux États-Unis, les perspectives ne sont pas sombres pour autant, si l'on se fie à l'intervention le 6 novembre dernier sur Alter Radio de l'avocat Brian Concannon Jr., directeur exécutif de l'Institut pour la justice et la démocratie en Haïti, IJDH. La victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine du 5 novembre 2024 ne laisse certes pas indifférent le juriste activiste américain et défenseur des droits humains. Cependant, il ne croit pas à un changement en profondeur dans la politique étrangère américaine. Brian Concannon a mis l'accent sur la continuité de l'approche diplomatique du gouvernement américain, démocrate ou républicain. Il ne perçoit aucun impact négatif, contrairement à la prévision de plusieurs spécialistes des relations internationales. Le candidat républicain s'est beaucoup accentué sur l'immigration lors de sa campagne. En plus de sa volonté de stopper l'inflation, Donald Trump prévoit de combattre l'immigration clandestine et la criminalité, avec la mise en application de politiques migratoires rigides comprenant des déportations massives. Sur ce point, Brian Concannon croit justement que des expulsions de migrants en situation irrégulière sont attendues, comme cela a toujours été le cas avec les administrations précédentes, a-t-il souligné. Il a relevé qu'aucun gouvernement américain n'a déporté autant de migrants haïtiens que celui du démocrate Joe Biden. Une déportation massive des Haïtiens, haïtiennes, aura de lourdes conséquences sur l'économie américaine, a-t-il nuancé en rappelant la contribution des migrants haïtiens, migrantes haïtiennes, dans l'économie américaine. L'aide à la sécurité en Haïti sera-t-elle renforcée sous l'administration de Donald Trump? Face à la situation chaotique d'Haïti, en proie à une crise sécuritaire et humanitaire aiguë, Brian Concannon s'attend à une augmentation de l'aide américaine en faveur de la sécurité, arguant que, historiquement, les républicains font de la sécurité une priorité. Il est donc confiant du soutien que pourrait bénéficier la mission multinationale d'appui à la sécurité, MMAS, faisant remarquer que cela entre dans le cadre de la politique étrangère élargie de l'Amérique dans le monde, faisant référence à l'accord avec le Kenya dans l'objectif d'étendre sa puissance en Afrique de l'Est. 200 millions de dollars ont été fournis à la Police nationale d'Haïti, PNH, depuis 2021, pour aider à former et équiper de nouvelles recrues ainsi que des unités spécialisées dans la lutte contre les gangs armés, a rapporté Alter Presse dans un article paru le 6 septembre 2024. En outre, les États-Unis ont livré récemment des véhicules blindés de transport de troupes, APC, afin de doubler la flotte de la MMAS et améliorer la mobilité, ainsi que d'autres formes d'assistance, a informé l'ambassade américaine. Une meilleure collaboration au Conseil de sécurité de l'ONU sur le dossier d'Haïti. Brian Concannon espère une meilleure collaboration au Conseil de sécurité de l'ONU sur le dossier d'Haïti. Il a fait part de son optimisme sur un possible accord entre les États-Unis, la Chine et la Russie en vue de la transformation de la MMAS en une mission de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies, ONU. Sur la question de l'acheminement des armes à feu en Haïti, le responsable de l'IJDH ne voit pas la mise en place de mesures strictes censées limiter la circulation frontalière des armes à feu, disant qu'il a l'impression que cela dépasse l'administration américaine. Le président américain Joe Biden avait annoncé en mars 2023 un ensemble de restrictions sur les armes à feu, mais avait rappelé que la tâche revient au Congrès. Il faut dire que la National Rifle Association, NRA, une puissante organisation qui défend le port d'armes aux États-Unis, est souvent accusée d'influencer grandement les décisions des politiciens américains sur la ratification des lois régissant les armes à feu dans le pays, alors que les fusillades se multiplient. La Cour suprême des États-Unis avait de son côté confirmé en juin dernier une loi fédérale sur le contrôle des armes à feu dans l'optique de protéger les victimes de violences domestiques. Sanctions. Pas de changement conséquent en perspective. Sur la question des sanctions contre les personnalités politiques haïtiennes impliquées dans la dégradation du climat sécuritaire, Brian Concannon ne prévoit pas de changement conséquent avec la nouvelle administration. Il s'interroge sur le peu d'impact des sanctions, rappelant que des acteurs avaient déjà été sanctionnés par l'administration Trump, première version, pour le massacre de la Saline en 2018. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, ONU, a renouvelé le 22 octobre dernier le régime des sanctions internationales en application en Haïti. Ces sanctions incluent un embargo sur les armes, des interdictions de voyager et le gel des avoirs visant des individus et entités qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité en Haïti. Une décision qui a été saluée par la responsable de programme au Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, Rosie Auguste Duquena. Elle a en outre plaidé pour l'élargissement de la liste des personnes sanctionnées pour une meilleure efficacité de la décision. Ce régime des sanctions constitue un outil de lutte contre l'impunité, les crimes financiers et les violations des droits humains en Haïti. En plus des chefs de gang, il faut continuer à sanctionner toutes celles et tous ceux qui les soutiennent, a exigé la représentante du RNDDH. C'était l'élection de Donald Trump et Haïti, l'analyse de Brian Concannon, juriste américain. Un texte de Charlien Janville, paru le 14 novembre 2024 dans Alter Presse.